France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et en ce 1er novembre, une réforme importante entre en vigueur. Elle concerne plus de 2,5 millions de demandeurs d'emploi. La réforme de l'assurance chômage, dont les premières mesures durcissent les conditions d'accès. Il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 2 dernières années pour pouvoir toucher le chômage, contre 4 mois sur 2,5 ans auparavant. Il faudra aussi justifier une activité pendant 6 mois minimum pour recharger ses droits. C'était 150 heures jusqu'à présent. Nous reviendrons tout au long de cette matinée, notamment avec les invités des matins de France Culture à partir de 7h40 tout à l'heure sur cette réforme de l'assurance chômage. Ce 1er novembre sera aussi à la SNCF synonyme de changement de direction. Guillaume Pépi est remplacé par Jean-Pierre Farandou, ingénieur rentré à la SNCF en 81. Il aura fort à faire entre la réforme des retraites, les négociations sur le nouveau pacte social et les débrayages des cheminots à répétition, le tout sur fond de climat social tendu. Les constructeurs PSA et Fiat Chrysler sont bel et bien engagés dans la création d'un nouveau géant mondial de l'automobile. Les deux entités seront actionnaires à 50-50. La présidence de ce nouveau groupe sera confiée au patron de Fiat Chrysler, la direction générale à celui de PSA. Le siège sera basé aux Pays-Bas. Le groupe État islamique a un nouveau chef, annonce officielle hier via un message audio, 5 jours après la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi. L'organisation terroriste promet par ailleurs des représailles aux États-Unis et demande la libération des djihadistes détenus par les Kurdes, notamment en Syrie. Notons enfin que le président libanais Michel Aoun souhaite, dit-il, la formation d'un gouvernement de technocrates au Liban pour mener à bien les réformes économiques dans le pays. Cette demande fait écho à celle du premier ministre démissionnaire Saad Hariri. La mise en place d'une gouvernance non confessionnelle est l'une des revendications des manifestants depuis 2 semaines. Nous irons au Liban dans le journal de 6h30.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré, coédité par France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Claire Levasseur. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, des mangas, des comics et des romans graphiques. Roman graphique comme ce beau livre de Lamia Ziadé, Bye Bye Babylon, sorti il y a 10 ans chez De Noël Graphique et que son nouvel éditeur, POL, ressort aujourd'hui, cette semaine, dans une version augmentée. Livre de souvenirs, livre inventaire des souvenirs, des lieux, des objets, des personnalités qui ont marqué son enfance dans le Beyrouth en guerre. Dans Bye Bye Babylon, il y a des dessins en couleur, des aquarelles, c'est flashy, c'est beau et ça raconte une période assez dure. La L'ami Asiadé donc revient sur ses souvenirs de la guerre civile qui ravagea son pays, le Liban, alors qu'elle avait 7 ans. Cette nouvelle édition, dans un nouveau format, contient de nouveaux dessins inédits et un texte entièrement revu et augmenté, comme on dit. Beyrouth 1975-1979 par l'ami Asiadé dans un instant. Juste le temps de vous préciser qu'à la fin de l'émission, Sonia Deschamps nous rejoindra pour une petite sélection des mangas sortis cette année. Des mangas d'ailleurs réalisés par des femmes et qu'il ne faut surtout pas rater. Mais tout d'abord, Beyrouth, Beyrouth d'hier, Beyrouth d'aujourd'hui, la Beyrouth éternelle de Fayrouz.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Les Beyrouth. Min qalbi salamun li Beyrouth. Wa qubalun lil bahr wal buyut. Li sakhratin ka'annaha. Wajh bahar.
Et nous voilà à Beyrouth avec vous, l'ami Asiadé, bonjour.
Bonjour.
Bon, bien sûr, Fayrouz, inévitable Fayrouz. Est-ce qu'on a des nouvelles de cette grande diva, la dernière des grandes divas arabes, l'ami Asiadé, avant de parler de votre livre et de l'actualité au Liban ?
Elle vit très retirée. Je dois avouer que moi, en tout cas, c'est tout ce que je sais. Dans mon livre « Au nu et aux mes yeux », je me suis penchée sur toute sa vie, comme celle des grandes stars, mais je ne cherche pas aujourd'hui à en savoir plus sur les légendes. Mais en tout cas, on ne la voit plus. D'ailleurs, on ne l'a jamais vraiment beaucoup vue en public, ni à Beyrouth, ni ailleurs.
Parlons d'aujourd'hui. Depuis un peu plus de 2 semaines, le Liban connaît un mouvement de protestation vraiment inédit. C'est une contestation générale qui vise la classe politique accusée de corruption. Et les manifestants accusent aussi les bas salaires, bien sûr, et l'état des infrastructures. Comment, de loin, depuis votre exil, depuis plus de 20 ans d'exil à Biaziadé, vous suivez ces événements de votre pays d'origine, le Liban ?
Comme les Libanais qui sont là-bas, mais dans mon cas, je ne parlerai pas vraiment d'exil parce que j'habite la France depuis plus de 20 ans, mais je retourne très très souvent au Liban, toute ma famille est là-bas, mes frères et sœurs, mes parents, donc je suis quotidiennement en lien avec le Liban, même quand il ne se passe pas des choses aussi incroyables. Mais c'est vrai que d'être loin, là, c'est un peu frustrant, mais j'y vais la semaine prochaine, donc je vais me rattraper. Comme à l'époque où on vivait la guerre, moi je pensais, la guerre a commencé, j'avais 7 ans, et elle a duré 15 ans, mais au bout des premières années, on disait que ça allait se terminer l'année prochaine. Puis après, on était sûr que ça se terminerait. Enfin, moi, mon feeling d'enfant et d'adolescente, c'est que je pensais que ça durerait éternellement. Et quand la guerre s'est terminée, un beau jour, on ne sait même pas pourquoi, c'était tellement, tellement sur le fil, tellement compliqué au Liban et dans la région, etc., et dans le monde, que bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais l'espoir est vraiment là. Et
il est là, d'autant plus que là, finir, c'est quoi. Tous les Libanais qui sont sortis manifester. C'est-à-dire, oui. Au-delà de leur appartenance politique, religieuse ou même sociale, ils sont tous descendus dans la rue.
Oui, bah, ils sont, oui, c'est effectivement toutes les communautés. Mais les corrompus sont aussi dans toutes les communautés, donc c'est normal.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images provenant du Liban? Vous vous dites enfin, le pays se normalise, il connaît ses crises politiques, ses manifestations gigantesques comme tous les pays, où il y a toujours quand même ce souvenir de la guerre qui fait que vous avez un peu peur quand vous voyez tout
moi,
ça.
Moi, je l'ai toujours. Bon, dans les jeunes générations, ils ne l'ont pas forcément, donc c'est bien. Mais moi, j'ai toujours peur que ça reprenne, quoi. Et là, j'espère que non. Enfin, ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça a commencé, là, et d'aller jusqu'au bout.
L'ami Asiadé, votre livre, c'était une manière de revenir sur votre enfance. Il vous a fallu combien de temps de silence et d'oubli avant de replonger dans cette période de votre vie pour écrire, pour dessiner « Bye Bye Babylone » ?
Pas mal de temps, plus une dizaine, même plus qu'une dizaine d'années, mais en fait il a surtout fallu un déclencheur, et le déclencheur c'était en 2006 que je me suis vraiment attelée à ce livre. C'était l'attaque israélienne sur le Liban pendant l'été 2006, qui justement où là on a réalisé que la guerre c'est pas vraiment fini au Liban et que bon c'est pas le même genre de guerre, mais du coup comme j'avais des billets d'avion pour aller à Beyrouth en été et que l'attaque a eu lieu la veille, donc je suis restée bloquée en France et c'est là que je me suis dit mais bon je vais m'y mettre, là je vais commencer ce livre qui me trottait dans la tête mais que j'aurais jamais, que je me sentais pas prête à faire, que j'osais pas faire, que je pensais que ça serait pas à la hauteur, que c'était idiot de reparler de la guerre, des choses comme ça, et ça m'a décidé. Hein.
Et de vos souvenirs d'enfants, c'est vraiment un inventaire de tous vos souvenirs de cette période.
Oui, c'est pas que la guerre, c'est aussi les souvenirs familiaux avec mon petit frère, ma grand-mère, mes parents, des souvenirs très intimes et qui cohabitent avec la guerre en fait. Pendant la guerre, on continue à vivre et on a comme tout le monde, des petites histoires de famille, etc.
À sa sortie, le livre chez De Noël Graphique a été salué, Bye Bye Babylone. Du coup, vous avez continué, mais avec un autre éditeur, POL, à raconter toute cette culture qui a marqué votre enfance, cette culture arabe, les années d'or, l'âge mythique du musical arabe, mais aussi du cinéma arabe. Ça, c'est dans les livres qui ont suivi Bye Bye Babylone. Mais là, vous reprenez ce premier livre en introduisant de nouveaux dessins. Pourquoi c'est une rectification de vos souvenirs, Lamia Ziadeh?
Alors, c'est une augmentation. Et oui, on peut dire rectification de certains souvenirs parce que depuis, donc il est sorti en 2010 ce livre, et depuis il y a une espèce de mode au Liban, mais je pense dans le monde entier, de sur internet, Instagram, etc., de blogs de jeunes ou de vieux qui ressortent des vieilles cartes postales, des documents vintage, etc., ce qui n'était pas le cas du tout quand j'avais commencé le livre. Et du coup j'ai eu plein de documents visuels de l'époque que je n'avais pas. Et donc dans le premier livre j'avais dessiné vaguement de mémoire, par exemple, un chewing-gum qui s'appelle Bomba et qui n'existe plus. Et j'avais beau chercher, je trouvais pas de modèle, etc. Et puis un Libanais a publié un livre dont je me suis pas mal servi qui s'appelle Pure Nostalgia. Et dans ce livre, il y avait ce chewing-gum que je trouvais plus du tout. Donc j'ai refait le dessin du chewing-gum, par exemple.
Alors parlons de vos souvenirs, Lamia Ziadeh, sur une musique d'Ibrahim Malouf, musique nostalgique. Le morceau s'intitule Beyrouth. La fleur du Liban que vous aimez?
Je sais pas si c'est typiquement du Liban, mais c'est le dahlia. C'est la seule fleur qu'on trouvait pendant la guerre en tout cas dans la montagne où on habitait.
Et l'oiseau de Beyrouth ou du Liban que vous préférez?
Ouh là là, je suis nulle en oiseau, donc celui que je préfère est dans une chanson de Fayrouz, L'Ouarouar. Dakhilak ya tayr l'Ouarouar.
Vos auteurs libanais, vos écrivains libanais favoris?
Je vais nommer un Palestinien qui habitait Beyrouth, a été assassiné en 72 à Beyrouth par le Mossad, une voiture piégée, et qui est un écrivain mythique, Hassan Kanafani. Et si je conseillais un livre, c'est son livre le plus connu, Des hommes au soleil, petit roman mais incroyable.
Qui parle de quoi ?
L'exil justement, et même c'est plus compliqué que ça. Ouais.
On continue le questionnaire, Lamia Ziadeh. Votre poète préféré ?
Apollinaire.
Vos héros dans la fiction ? Le héros de la fiction, ça peut être la télé, le cinéma, les dessins animés, la bande dessinée?
Tom et Jerry.
Que vous dessinez d'ailleurs dans votre livre. Bye Bye Babylone. Vous avez grandi avec Tom et Jerry?
Ah oui.
C'est-à-dire que dehors, il y avait la guerre.
Mais justement, on était enfermés à la maison, donc on regardait la télé toute la journée quand il n'y avait pas de coupure de courant. Et Tom et Jerry en noir et blanc, bien sûr, à l'époque. C'est toute mon enfance, quoi.
Votre musicien ou compositeur de musique préféré?
Schubert.
Et enfin, vos prénoms libanais favoris? Quels sont les prénoms que vous aimez et qui viennent du Liban?
J'aime bien Salim. Yumna.
Et enfin, du questionnaire 2 à la Madeleine 2. Pour vous, la Miazadi, c'est quoi votre Madeleine de Proust?
C'est le chewing-gum bazooka. Tout à l'heure, je parlais de Bomba et en fait, Bazooka avait un look beaucoup plus... ils avaient le même goût, hein, mais beaucoup plus... j'aimais bien l'emballage. Et c'est vraiment des chewing-gums qui ont existé, hein, Bazooka et Bomba, dans les années 70 à Beyrouth. Très pop, des designs super pop, des emballages très marrants.
Mais c'est
coloré.
C'est étrange de donner des noms d'armes à des bonbons, à des friandises.
Oui, mais je crois que c'est américain, hein. C'est ce genre d'idée, ça ne peut pas venir d'ailleurs.
Quelle relation vous avez maintenant avec vos souvenirs?
Là, le fait de reprendre ce livre, je m'y suis replongée comme si je le refaisais à nouveau. Donc, il y a 200 dessins en plus. J'ai refait le texte et tout, donc je me suis replongée dans mes souvenirs vraiment de façon, à mon avis, beaucoup plus profonde d'ailleurs qu'il y a 10 ans. Peut-être que c'est l'âge qui fait qu'on se sent plus proche, je sais pas, mais c'était en tout cas intéressant. Là, j'ai plus envie d'y penser, j'ai un autre projet. Donc c'est toujours, il faut bien toujours avoir de nouveaux projets pour évacuer les précédents.
Quand vous retournez à Beyrouth, vous revenez sur les lieux qui ont marqué votre enfance, s'ils existent toujours?
Alors curieusement, je vais plutôt dans ceux que je n'ai pas, auxquels je n'ai pas eu accès dans mon enfance, comme je raconte dans la nouvelle partie de Bye Bye Babylon. Mmh. Quand j'étais enfant, on habitait Beyrouth Est, le quartier chrétien, et tout Beyrouth Ouest nous a été complètement
fermé,
inaccessible pendant 15 ans de guerre. Et pour moi, c'était une énorme frustration, parce que j'étais très attirée par les néons et l'agitation de Hamra, même à 7 ans, et par la corniche de Beyrouth, qui se trouve à l'ouest aussi, et par le côté peut-être plus... ou en couleur et orientale de l'est, de l'ouest de Beyrouth. Et ça a été pour moi une énorme frustration pendant ces 15 ans de guerre de ne pas pouvoir y aller. Donc là, je vais plutôt spontanément vers ce genre d'endroit que ceux où j'ai vécu toute la guerre, quoi.
Demain, c'est le 2 novembre. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, mais c'est la fête des morts. C'est pas la Toussaint, c'est demain, la fête des morts. Et pour vous, la Miaziadeh, comment on célèbre les morts? Comment on vit avec la mémoire des disparus au Liban?
Moi et le Liban, c'est pas la même chose, forcément. Je sais pas très bien répondre à cette question. Moi, dans mon précédent livre, Ma très grande mélancolie arabe, qui était vraiment basé sur les martyrs, que ce soit des victimes d'attentats ou des résistants, combattants, kamikazes ou autres, j'ai dessiné un nombre incalculable de tombes, de cimetières différents à travers le Liban et tout la Palestine, l'Irak. Tout le Proche-Orient, y compris la tombe de Nasser au Caire ou celle d'Oum Kalsoum. Enfin, j'ai été très exhaustive sur le sujet. Et même après ce livre-là, où vraiment là, j'aurais pu avoir c'est très varié entre le culte de quelqu'un qui est un martyr au Liban ou en Égypte ou en Irak. Même, c'est pas le même... Mais je sais pas, peut-être que je sais pas très bien en parler. Je sais mieux le dessiner ou ces magnifiques cimetières, très très beaux.
Et toutes les stars du cinéma, de la chanson, du musical, toutes ces belles images qui renvoient à des devantures de magasins ou de nightclub, tout ce qu'on trouve dans Bye Bye Babylon, votre inventaire de tous ces objets, tous ces mets qui constituent votre passé, votre enfance. Ils viennent occuper vos rêves, votre imaginaire, la Miaziadeh?
J'ai allé à la recherche de quelques moments précis que j'avais même oublié pratiquement, etc. Mais sinon, oui, c'est plutôt justement ce qui est resté à émerger, la partie émergée de mes souvenirs de l'iceberg, quoi. Et c'est des choses, par exemple, la série de petites voitures de Matchbox que j'ai dessinées, on les a toujours. La collection d'éclats d'obus aussi, dans une boîte. Dans la chambre de ma sœur maintenant, mais c'est des choses vraiment qui m'ont... Sinon, je les aurais oubliées, je pense, ces voitures, si j'avais pas continué à les voir. Et... Mais donc, tout est vraiment sincèrement ma vie. Je suis pas allée chercher des faux souvenirs, par contre. Mais il y en a que j'ai vraiment dû creuser pour m'en souvenir et interroger peut-être mon frère, mes parents, etc.
Et enfin, pour revenir à ce qui se passe en ce moment au Liban, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ami Aziadé, mais il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de dessinateurs, d'auteurs, de bandes dessinées qui s'impliquent et qui créent pour soutenir le mouvement social actuel. Est-ce que vous-même, vous participez à cela?
J'ai fait un dessin la semaine dernière d'une jeune femme à Beyrouth qui avait une banderole dont j'ai adoré
le slogan.
En arabe, le slogan, enfin c'était même pas un slogan, c'était presque une dissertation, mais c'était vraiment super. Et j'ai dessiné le c'est trop ordurier, je peux pas répéter.
Bah alors dites-le en arabe, je traduirai à ma manière.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vraie illustration. C'est pas du tout comme ce que font les artistes là, qui est génial. Ils font des slogans, les vrais slogans, comme pendant les révolutions, des très graphiques, des vrais tracts, etc., qui sont placardés sur les murs. Et moi, j'ai fait plutôt une illustration, parce que je suis mauvaise en graphisme, je fais une illustration comme celle que j'ai faite dans ma très grande mélancolie arabe de tous ces personnages. Et je compte en faire d'autres, effectivement. ويشيعون أنه كان أيامها يقول في شقوق الدجى أعود في شقوق الدجى ويشيعون أنهم سمعوا في الدجى عويلا وعواء من الحدود من يا ترى يعرف القتيل من يا ترى يعرف القتيل من يا ترى
L'ami Aziadé, Bye Bye Babylone, revue et augmentée avec des dessins inédits. Merci d'être passé, c'est édité par POL, bien sûr.
Merci à vous.
Et comme tous les premiers vendredis du mois, on retrouve Sonia Deschamps du magazine Casemate. Bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Vous repartirez avec le Bye Bye Babylone de l'ami Aziadé.
J'espère bien.
Parce que depuis tout à l'heure, je vous vois très attentif à ce qui se
passe. Tout à fait, parce que j'avais lu l'ancienne version et je dois avouer que j'étais passée à côté de cette nouvelle édition. Donc j'ai hâte de pouvoir la lire et m'y plonger.
Alors nous, on continue la sélection des bandes dessinées de la rentrée. Et cette fois-ci, on va parler des mangas et plusieurs femmes mangaka sont présentes dans nos librairies. Que nous conseillez-vous de lire, de découvrir, Sonia Deschamps ?
Eh bien, la mangaka Kaori Tsurutani, qui publie BL Métamorphose, est publiée aux éditions Kiun. BL Métamorphose, c'est l'histoire d'une rencontre et du partage d'une passion pour le manga, précisément. On a Yuki, elle a 75 ans et elle vit seule, elle est veuve, elle aime faire des mots croisés et donner des leçons de calligraphie. Elle a un quotidien bien réglé, mais...
Et il faut forcément aimer.
Oui, mais un jour, en flânant dans une librairie, elle tombe sur le rayon manga. Elle n'en a pas lu depuis très longtemps et une couverture l'attire immédiatement. Alors elle achète le livre, elle trouve que c'est très bien dessiné. La caissière, qui est une lycéenne timide, lui propose un cache-couverture et Yuki refuse, tout sourire. Et ce n'est qu'une fois rentrée chez elle qu'elle réalise qu'elle a acheté en fait un boys love. C'est de la romance entre garçons. Il y a beaucoup de mangas de boys love qui sont publiés en ce moment. Et la grand-mère, Yuki, eh bien, elle va adorer ça. Et Urara, la lycéenne apprentie libraire, va devenir sa conseillère en la matière. C'est une belle relation qui va commencer à se nouer entre elles deux, pourtant a priori très différentes, hein, la grand-mère et la lycéenne timide. C'est touchant, délicat, léger. C'est une très jolie surprise et c'est publié chez Kiun. Donc on en est au tome 2. Le tome 3 sortira au mois de janvier.
Métamorphose de Kaori
Tsurutani
chez Kiun. Un peu de magie cette fois-ci avec un coup de cœur pour l'atelier des sorciers. Vous avez aimé vous aussi, Sonia Deschamps.
De Kamome Shira. Mal l'atelier des sorciers, c'est l'histoire de Coco, une fillette depuis toujours fascinée par la magie, qui va se retrouver apprentie sorcière, alors qu'on lui avait toujours dit qu'elle ne pourrait jamais faire de magie, qu'il fallait naître sorcière ou sorcier. Et en fait, elle va découvrir, à ses dépens au début, elle va découvrir que la magie, ça s'apprend. Puisque dans ce monde, et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée de départ, dans ce monde, le dessin est source de magie. C'est-à-dire que les sorcières et les sorciers, ils se servent pas d'une baguette magique, mais d'une plume. C'est la révélation d'ailleurs du tome 1 de la série. Un sort ne se lance pas, il se dessine. Il faut donc apprendre à tracer les bons symboles pour faire, je sais pas, se déplacer un objet ou provoquer une explosion. L'univers est extrêmement bien construit, très riche, très beau aussi. Kamome Shirahama, elle soigne vraiment tous les petits détails. On peut voir un mélange de plein d'influences dans ce manga. Les décors et les tenues rappellent l'art nouveau et l'art déco. Kamome Shirahama revendique aussi être influencée par la bande dessinée européenne. Elle est fascinée par Moebius, avec toujours la fluidité de lecture qui est vraiment propre au manga. C'est un savant et assez brillant, je dois dire, mélange.
Avec que des bonnes références, l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, on vous l'a déjà dit peut-être, c'est le tome 5 déjà, et c'est édité par...
Pika.
Un dernier rapide coup de cœur, Sonia Deschamps.
Oui, j'aime beaucoup ce que fait Marie Yamazaki dans Terma Romae, qui a été publié il y a un petit moment déjà. On suit le personnage de Lucius Modestus, un architecte romain, un spécialiste des thermes. Et un jour, entraîné sous l'eau, il refait surface 19 siècles plus tard dans des bains publics japonais. Alors dans cette série, vous l'imaginez, l'auteur joue avec le décalage. Hein, Rome au 2e siècle, le Japon au 21e siècle, avec donc tout un jeu autour du comique de situation. Lucius, il est perdu au Japon, perdu au milieu des faces plates, comme il les appelle. Mais il va quand même profiter de cette petite faille dans l'espace-temps pour ramener à Rome des innovations techniques pour les thermes qu'il construit. Alors, on rit beaucoup en lisant ce manga. On découvre aussi plein de choses sur la culture du bain, sur la société romaine comme sur la société japonaise. C'est une excellente série en 6 volumes. Il y a une intégrale qui existe aussi, c'est Termae Romae, et c'est donc de Marie Yamazaki. Marie Yamazaki qui publie une autre série chez Casterman, une série qui est en cours cette fois, ça s'appelle Pline. Donc vous imaginez quel peut en être le sujet. C'est Pline l'Ancien, l'auteur de l'Histoire naturelle. Le tome 9 de Pline est sorti le mois dernier et c'est également très très réussi.
Et les deux séries de Marie Yamazaki sont éditées par Casterman. Et vous vouliez, Sonia Deschamps, nous dire un tout dernier mot sur, cette fois-ci, un manga à venir.
Oui, Kan Takahama, une autrice que vous avez reçue cette émission pour La Lanterne de Nyx qui était publiée chez Glénat.
Alors, et à retrouver en podcast, bien sûr.
Bien évidemment. Et bien, sachez, Toufik, que donc Kan Takahama prépare une adaptation de L'Amant de Marguerite Duras. L'Amant, c'est un livre qui a marqué l'adolescence de la mangaka qui a grandi en se comparant à cette européenne élevée dans une colonie française d'Indochine. Ce sera publié chez Rue de Sèvres au mois de janvier 2020.
Merci Sonia. Tiens, quel est le livre qui vous a marqué, Lamia Ziadé? Le premier roman français qui vous a marqué? C'est Duras, vous aussi? Non.
C'est La Recherche.
C'est Proust?
Ah ben oui, je pense que...
On se posait la question. On se posait la question. Ah bah non, c'est très original. On se posait la question comment marquer les 100 ans du Goncourt, du fameux Goncourt obtenu par Proust pour La Recherche. Et ben voilà, c'est avec Lamia Ziadé. Vous l'avez lu où? Ici, en arrivant en France ou au Liban?
Non, au Liban. Juste avant d'arriver, au moment du bac à peu près, juste après.
Merci Lamia Ziadé. Merci Sonia Deschamps.
«
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et en plus, en passant par la page de l'émission Le Réveil Culturel, en cliquant sur franceculture.fr, vous pouvez avoir un aperçu, un petit aperçu des dessins réalisés par les artistes libanais pour accompagner le mouvement de contestation actuellement en cours au Liban. Passez une bonne journée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Coder, décoder. Jusqu'au 4 novembre, les Utopiales, Festival international de science-fiction à Nantes, déchiffrent les structures cachées de la création, de l'information et du langage. Littérature, BD, cinéma, jeux vidéo, rendez-vous vendredi 1er novembre avec les émissions de France Culture, La Grande Table, Le Rayon BD, Mauvais Genre, La Méthode et La Conversation Scientifique. En public à la Cité des Congrès de midi à 18h30, réservation sur utopiales.org, plus d'infos, franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La trêve hivernale débute ce vendredi 1er novembre. Fin des expulsions donc, même si certains ont dû quitter leur logement précaire ces derniers jours, poussés par des propriétaires et des forces de l'ordre. D'autres en revanche ont eu plus de chance. Rencontre avec une mère de 3 enfants qui va pouvoir passer l'hiver à l'abri. Nous entendrons ensuite les inquiétudes des salariés de Pôle emploi, alors qu'entre en vigueur aujourd'hui la réforme de l'assurance chômage. Une réforme compliquée à comprendre, disent-ils. Dans ce journal encore, analyse de la succession d'Aboubakar al-Baghdadi à la tête du groupe État islamique. Daesh communiquait à ce propos hier. Et puis reportage à Tyr, au sud du Liban, où les manifestants subissent la pression du Hezbollah. Ce 1er novembre marque donc la fin des expulsions locatives, trêve hivernale qui va durer jusqu'au 1er avril 2020. L'année dernière, près de 16 000 familles ont été expulsées de leur logement, selon la Fondation Abbé Pierre. C'est un chiffre jamais atteint et 3% de plus que l'année précédente, en 2017. Cette année encore, les expulsions se sont multipliées juste avant le 1er novembre, les propriétaires voulant libérer les habitations avant la trêve. Pauline Renoir a rencontré pour France Culture une mère de famille qui, elle, a évité la rue in extremis.
Samia a redouté l'expulsion jusqu'au dernier moment. Dans son studio près de la place de la Nation, où elle vit avec ses 3 enfants, plus de meubles, mais des sacs et des cartons. Elle était prête à lever le camp sans savoir où aller.
Alors là, vous avez la chambre des filles avec les 3 lits. Superposé. Et là, on a 2 matelas de camping parce qu'on s'est débarrassé du lit en cas d'expulsion forcée. J'étais obligée de me débarrasser d'un maximum d'affaires. C'est vraiment le strict minimum. C'est du camping, quoi. Du camping à la maison. Et là, je suis contente. Bon, bah, on a quand même gagné une petite bataille. C'est pas la guerre. C'est la bataille, quoi, du logement. On a gagné une petite bataille sur le logement.
Mardi soir dernier, un appel de la police délivre Samia de ses angoisses. L'expulsion n'aura pas lieu. C'est en partie grâce à l'association Droit au logement qui a manifesté devant chez elle pendant plusieurs jours. La jeune femme, qui gagne à peine plus d'un SMIC, a maintenant 5 mois pour trouver un nouvel appartement. Son dossier est en attente dans plusieurs services sociaux.
On n'a aucune visibilité. La seule visibilité qu'on a, c'est le jour où on a une proposition et c'est là qu'on a quelque chose. On est très dépendant de toutes ces procédures qui sont malheureusement très dures, très difficiles à comprendre.
Le retour de l'encadrement des loyers à Paris depuis le 1er juillet donne de l'espoir aux associations pour rendre plus accessibles certains logements. Mais pour Marie Rotan de la Fondation Abbé Pierre, il faut bien plus un plan d'urgence nationale.
Un plan de 100 millions d'euros. Ces 100 millions, ça vise notamment à abonder des fonds qui viennent rembourser l'impayé de loyer aux propriétaires ou qui viennent l'indemniser lorsque l'expulsion effective n'est pas réalisée par les forces de l'ordre.
La Fondation Abbé Pierre alerte aussi sur la hausse des charges depuis un an, 5% de plus pour les propriétaires qui répercutent sur les loyers. Encore un frein dans l'accès au logement pour les plus précaires.
Les questions de logement encore et cette décision du tribunal d'instance de Marseille hier. Il condamne une copropriétaire de la rue d'Aubagne à verser 5000 euros à sa locataire, rescapée de l'effondrement de l'immeuble insalubre, c'était il y a un an. Une indemnisation pour cette jeune femme qui avait quitté les lieux 3 jours plus tôt pour se réfugier chez une amie en raison de la crainte que lui inspirait l'immeuble. Les premières mesures de la réforme de l'assurance chômage entrent en vigueur aujourd'hui. Les conditions d'accès sont durcies. Il faut maintenant avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années, au lieu de 4 mois sur 28 auparavant. Le texte inquiète les demandeurs d'emploi et les agents de Pôle emploi. Ils redoutent des arrivées massives de chômeurs en agence, des chômeurs en colère ou perdus face aux changements à venir. Écoutez à ce propos David Valaperta de la CFDT Pôle emploi.
Il y a une appréhension et des interrogations qui se posent ici et là d'une partie aujourd'hui des salariés sur ce que va être effectivement l'attitude des demandeurs d'emploi qui vont découvrir cette baisse de droits, parce que beaucoup sont un petit peu passés quand même à côté de l'information. Ils vont la découvrir maintenant dans les prochaines semaines. Donc aujourd'hui, nous demandons un plan d'accompagnement vraiment de qualité et poussé pour les salariés de Pôle emploi. Et la deuxième chose que nous réclamons, c'est en tout cas que la direction de Pôle emploi se mettre en ordre de marche, en tout cas pour être en capacité de renforcer les accueils des agences si jamais nous constatons, comme nous le craignons, une augmentation importante des flux, des sollicitations des demandes d'emploi auprès des conseillers Pôle emploi, mettre en place également des organisations pour aussi faire en sorte de prévenir et d'éviter des situations de conflit, de tension qui pourraient éventuellement survenir.
C'était David Valaperta de la CFDT Pôle emploi. Autre changement de ce 1er novembre, les tarifs réglementés du gaz, ils augmentent de 3% en moyenne. C'est la fin d'une année de modération après la crise des gilets jaunes en novembre 2018. En bref encore et au chapitre des changements toujours, Jean-Pierre Farandou remplace Guillaume Pépi à la tête de la SNCF aujourd'hui, alors que des préavis de grève s'enchaînent au sein de l'entreprise. Le débrayage au technicentre de Châtillon pourrait s'étendre à 2 autres sites en région parisienne selon Sudrail, sans compter les préavis de grève reconductibles déjà déposés à partir du 5 décembre prochain pour protester là contre la réforme à venir des retraites. Le groupe État islamique a confirmé hier la mort de son chef Aboubakar al-Baghdadi et l'organisation islamique annonce dans la foulée la nomination d'un successeur à sa tête, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Daesh s'est ainsi exprimé via son organe de communication Hamak, une annonce analysée ce matin par David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il est aussi et surtout chercheur à l'Institut d'analyse stratégique.
Il y a d'abord la nomination d'un successeur, et d'ailleurs calife en arabe c'est celui qui succède, donc il fallait trouver un successeur au calife al-Baghdadi, en l'occurrence Ami Ibrahim al-Hashimi al-Quraysh, et le patronyme est intéressant parce que ça fait référence al-Quraysh justement à la grande tribu du prophète, et dont sont issus un certain nombre de clans par la suite, mais en tout cas c'est une forme de légitimité justement très importante pour celui qui doit succéder au défunt, au calife autoproclamé. Sous réserve de confirmation par la suite, mais il semblerait que ça puisse être un Irakien. Et puis effectivement, la référence au lignage, non pas proprement parler du prophète, mais enfin en tout cas de la tribu du prophète, qui est un gage de légitimité, qui permet d'asseoir par la suite effectivement la légitimité du successeur, qui aura fort à faire compte tenu des difficultés de Daesh aujourd'hui. Il s'agit de rassembler effectivement les troupes et de perpétuer le message du calife autoproclamé al-Baghdadi.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. À quoi joue le fils du président brésilien? Le député Eduardo Bolsonaro a jeté le trouble hier en évoquant l'éventualité de restaurer un régime répressif dans le pays, comme lors de la dictature militaire entre 64 et 85. Un régime répressif si, a-t-il dit, la gauche se radicalise, comme dit-il, c'est le cas en ce moment au Chili. Face au tollé, le député a ensuite fait marche en arrière, alors que son père, le président Jair Bolsonaro, mettait fin hier à l'abandonnement des organes gouvernementaux pour un journal, le journal Fola, l'un des principaux quotidiens du pays. Au Liban, les manifestations continuent malgré la démission mardi du Premier ministre Saad Hariri. Le pays tout entier est mobilisé depuis 2 semaines maintenant contre l'ensemble de la classe politique. Une mobilisation qui effraie certains pourtant, qui habitent dans le sud du pays, dans le fief du Hezbollah, grand parti chiite soutenu par l'Iran. C'est un reportage à tir de Chloé Doma.
Retranchés sur un rond-point, les manifestants ne sont plus qu'une poignée, entourés par la circulation, l'armée et les affiches des partis politiques qu'ils dénoncent. Dans cette région, tenue d'une main de fer par les partis Hezbollah et Hamal, une grande partie de la population refuse de mettre tous les politiciens dans le même sac.
Si ça avait continué comme au début, on descendait tous ensemble et c'était très bien. Très très bien. Mais quand ils ont commencé à dire tout le monde, tous pareils, non ! Non, pas tout le monde. Il y a des gens propres. Il y a des gens propres et non, leur douleur est la même que la nôtre.
Ici, le clientélisme est roi et critiquer l'ordre établi se paye très cher. L'un des organisateurs nous explique.
Il y a eu une attaque contre le rassemblement et ça a effrayé les gens. Ensuite, il y a eu des rumeurs tous les jours qu'ils allaient encore nous attaquer. Des gens ont interdit à leurs enfants de participer.
Menacés, les manifestants hésitent à continuer la mobilisation. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer dans l'après-midi. Tous attendent son discours.
C'était Chloé Doma au Liban pour France Culture. L'Espagne pourrait finalement accueillir la COP25, la conférence mondiale sur le climat. Madrid s'est proposée hier à la place du Chili. Chili qui avait dû renoncer à cette COP25 en raison de la crise sociale qui secoue le pays. La météo prévue ce vendredi est plutôt simple en France métropolitaine. De la pluie pour tout le monde. Humidité grisaille au programme sous des températures qui remontent un petit peu. Comptez ce matin 10 degrés à Lille et Strasbourg. 13 à Paris et Lyon, 17 degrés à Nantes et 19 degrés dans la matinée à Bastia. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées en ce 1er novembre et à la veille, Jacques, du jour des morts de novembre. Vous revenez sur le sens largement partagé du soin porté à nos défunts.
Eh oui, dans un beau livre au titre évocateur, La vie qui unit et la vie qui sépare, le philosophe Frédéric Worms abordait la question du sens de la vie en évoquant ces moments où, par excès ou par défaut, nous éprouvons concrètement la densité de l'existence. Par excès, dans la rencontre amoureuse par exemple, qui vient saturer le sens de la vie en lui ajoutant une projection vers l'avenir. Par défaut, lorsque la disparition d'un être cher semble dépouiller la vie de toute forme de sens. Or, montrait-il, dans les deux cas, c'est de la même réalité qu'il s'agit. Dans le deuil d'un proche, la vie intime des souvenirs acquiert une force qui peut dépasser celle qui, comme on dit, suit son cours, oublieuse et indifférente. C'est sans doute pourquoi les humains ont, depuis la nuit des temps, soigneusement ménagé ce moment de passage par des rites funéraires et une période de deuil socialement convenue. Malgré leur grande diversité, tous ces rites se résument à une opération destinée à séparer le défunt du monde des vivants à travers trois grandes étapes, voir, caché, sacralisé, un programme conférant une forme globale à l'événement. C'est ce que montre Éric Crubezy, médecin archéologue, dans un livre qui vient de paraître chez Odile Jacob sous le titre « Aux origines des rites funéraires ». Voir le mort permet de réaliser l'événement et c'est pourquoi l'absence du corps est si difficile à vivre. Après la Première Guerre mondiale, combien de parents ont assisté sans broncher à l'ouverture de la tombe de leur fils, dont ils se demandaient s'il était bien décédé, souvent méconnaissable et dans un état de décomposition avancé, mutilé et couvert de terre. Le cadavre était identifié par une médaille ou une plaque en fer portant le numéro d'inhumation. Tous les témoignages soulignent le soulagement des proches qui ont pu voir et identifier les corps. La deuxième étape consiste à cacher le corps, l'ensevelir ou le crématiser, le momifier ou l'abandonner rituellement aux animaux sauvages, voire l'ingérer par morceaux. Chez les Tibétains, les funérailles célestes, qui consistent à découper le corps et à en donner des morceaux aux vautours, sont parfois considérées comme une forme d'endocannibalisme dissimulé, ce qui est discutable, estime Éric Crubezy, car la symbolique de l'oiseau qui se repaît et repart au ciel est très forte. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le moribond avait le droit d'exprimer son opinion sur le sort réservé à sa dépouille. Il pouvait également préciser lesquels de ses parents devaient être autorisés à goûter de sa chair. Un tabou s'impose en général, les parents directs ne se mangent pas eux-mêmes et jamais une mère ne mange son enfant. Enfin, pour sacraliser et métamorphoser le défunt, troisième temps des rites funéraires, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des secondes funérailles comme sur les hauts plateaux de Madagascar où le corps est sorti du tombeau pour y être replacé dans de nouveaux linceuls. Conclusion, pour accepter la mort, ce que nous appelons faire son deuil, il faut tuer psychiquement le mort, comme l'explique la psychanalyse en l'inscrivant dans des traces qui permettent progressivement un nouveau lien avec le défunt. Cette troisième phase du processus de séparation d'avec les vivants vise à les conduire dans un autre monde. monde, celui des morts de la communauté, des ancêtres ou des esprits. Parfois, elle prescrit une attitude spéciale à l'égard du nom du défunt. Dans un ouvrage paru chez Imago sous le titre « Les vivants et leurs fantômes, de la hantise aux symptômes », le psychanalyste Claude Guy raconte un souvenir parlant. Alors qu'on lui annonçait la mort d'un ami de sa mère, une petite fille de 4 ans dit « Comment il va s'appeler maintenant ?» Elle imaginait peut-être une forme de renaissance ailleurs, mais partout on peut constater une attention particulière à cet égard. À Rome, avant de fermer les yeux du mort, un proche lui faisait un dernier baiser en l'appelant plusieurs fois. Inversement, chez de nombreux peuples traditionnels, on doit s'abstenir de prononcer le nom du défunt, de peur de le faire revenir parmi les vivants comme un spectre. Chez les Barouya de Mélanésie, il est interdit de prononcer ce nom pendant 2 générations, au terme desquelles il est redonné aux descendants. En Europe, les petits morts-nés sans baptême, qui n'avaient pas reçu de prénom, restaient sans sépulture reconnue. Leur âme errait dans les limbes comme des feux follets, poussant des cris et gémissements qu'on appelait la musique des saints innocents. Une tradition très répandue prévoyait pour eux des sanctuaires à répit. Les morts dont on n'a pas pu s'occuper comme il faut reviennent hanter la mémoire. Ils restent dans cet espace que Jacques Lacan avait appelé à propos d'Antigone l'entre-deux-morts. Entre le temps de la mort physique et celui de la mort inscrite, s'étend le domaine immarcessible des fantômes.
Bonjour Jacques Munier, ce matin nous faisons un point sur un conflit diplomatique qui oppose l'Égypte à l'Éthiopie depuis plus de 8 ans maintenant. C'est le conflit autour du grand barrage de la Renaissance en construction sur le Nil Bleu à l'initiative de l'Éthiopie. L'Égypte dit depuis toujours que ce prochain plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique va poser pour elle des problèmes d'approvisionnement. Le sujet a été évoqué notamment à Sotchi, en marge du sommet Russie-Afrique. La Russie s'est proposée en médiatrice, tout comme les États-Unis. Quant au président éthiopien Abiy Ahmed, pourtant tout juste nommé prix Nobel de la paix, il dit que son pays pourra, je cite, mobiliser des millions de jeunes en cas de conflit armé avec l'Égypte. Bonjour Franck Galland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez longtemps travaillé sur ce grand barrage de la Renaissance. Je précise aussi que, comme plusieurs chercheurs de think tank, vous avez d'autres activités. Vous dirigez un cabinet d'ingénieurs conseil dans le domaine de l'eau. Alors, ce grand barrage de la Renaissance, on peut commencer par un petit point topographique pour comprendre en quoi ce barrage inquiète les voisins du nord de l'Éthiopie. Il y a le Soudan qui a une frontière directe avec elle, mais surtout l'Égypte qui n'en a pas, mais les fleuves se jouent des frontières. Franck Galland.
Oui, ce fleuve prend sa source en territoire éthiopien, à proximité du lac Tana. Il traverse ce beau pays qu'est l'Éthiopie. Il a aussi une vocation, une histoire dans cette population encore à majorité chrétienne. Les chrétiens d'Éthiopie l'appellent Abbé. Et ce fleuve est nourricier, a une vocation particulièrement spirituelle, sauf que depuis des décennies, et je pense qu'on peut remonter au début du siècle dernier, en 1902, l'empereur Ménélik II, qui gouvernait l'Éthiopie, avait signé un traité avec la Grande-Bretagne, qui était la puissance tutélaire du Soudan et de l'Égypte, s'engageant à ne pas utiliser 1 mètre cube de ce fleuve à des fins d'hydraulique agricole. Et depuis ce temps, les Éthiopiens, effectivement, n'ont pas d'autorité sur ce fleuve. Et c'est bien le problème qui se développe aujourd'hui. La construction de ce barrage est à la fois très revendiquée par le peuple éthiopien, par le gouvernement éthiopien, mais est éminemment source d'inquiétude pour les pays de l'aval, Soudan et Éthiopie.
Parce qu'il faut dire que le Nil Bleu, qui, comme vous le disiez, prend sa source sur les hauts plateaux d'Éthiopie, rejoint le Nil lors de sa confluence avec le Nil Blanc à Khartoum au Soudan. Et en ça, quel barrage que ce soit construit sur le Nil Bleu a un impact, une conséquence sur l'alimentation de l'Égypte sur le Nil, le débit du Nil.
Alors Hérodote disait que le Nil est un don de l'Égypte. 98% de la population égyptienne habite sur les rives du Nil. Et 95% de l'eau que vous consommez en Égypte est issue de ce fleuve. Donc à l'évidence, une construction de barrage côté Nil Bleu sur le territoire éthiopien inquiète les populations avales et en particulier la population égyptienne.
L'Éthiopie, déjà, pourquoi est-ce qu'elle a mûri ce projet toute seule sans en aviser quiconque? Je crois d'ailleurs qu'elle n'a pas demandé un centime d'aide sur les 4 milliards de dollars que lui coûte le chantier. Qu'est-ce qu'elle en attend?
Alors, ce barrage, dont la première pierre a été posée en pleine révolution égyptienne, la rue du Caire réclamait le départ du président Moubarak, et un 2 avril 2011, feu le premier ministre éthiopien Meles Zenawi pose cette première pierre en disant l'Éthiopie moderne, ce tigre africain avec une croissance à deux chiffres, qui est aujourd'hui un atelier de sous-traitance de la Chine, a besoin d'hydroélectricité, a besoin de capacités d'irrigation pour nourrir une population qui sera de 115 millions d'habitants à horizon 2030. Depuis plus d'un siècle, effectivement, l'Éthiopie n'a pas pu utiliser les eaux du Nil. L'intégralité, c'est 55,5 milliards de mètres cubes, va à l'Égypte et 18,5 milliards de mètres cubes vont au Soudan, mais rien pour l'Éthiopie. Donc il est clair que l'Éthiopie avait besoin de cet ouvrage qui sera, une fois terminé, la plus grande retenue d'eau d'Afrique et qui sera, en termes de capacité hydroélectrique, le 13e barrage du monde.
Elle doit permettre de générer 6000 mégawatts d'électricité, c'est exactement l'équivalent de 6 petites centrales nucléaires pour sa consommation intérieure. Mais elle souhaite aussi en vendre de l'électricité.
C'est un projet fédérateur et l'Éthiopie a compris qu'il fallait faire partager cet ouvrage à l'ensemble de la région. Alors, c'est vrai que les tensions ont été excessivement vives depuis une quinzaine d'années. En juillet 2010, un grand connaisseur de la région, qui était professeur à la Kennedy School of Government à Harvard, le professeur Rothberg, qui présidait aussi la World Peace Organization, avait signé un papier dans l'Herald qui s'appelait « Water Fights », les combats pour l'eau. Et il appelait la communauté internationale à faire excessivement attention, puisque quelques mois plus tôt, les pays amont du Nil, Éthiopie en tête, avaient réclamé un nouveau partage du Nil blanc. On retrouvait par exemple le Kenya, on retrouvait l'Ouganda dans cet accord d'Entebbe, et le Nil bleu. Le gouvernement égyptien, en mai 2010, on avait encore le président Moubarak en poste, avait immédiatement réagi. J'étais au Caire à l'époque et je me souviens des titres de la presse Kairot, c'était « coup de poignard dans le dos ». Et puis arrive, quelques mois plus tard, en avril 2011, alors qu'effectivement le président Moubarak est destitué, cette première pierre du barrage. Donc il est clair que les autorités égyptiennes profitent du chaos dans les rues du Caire, profitent des conséquences du printemps arabe pour accélérer...
Les autorités éthiopiennes.
Éthiopiennes, pour accélérer cette première pierre et le développement de ce barrage.
Évidemment, l'Égypte regarde ailleurs. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui des négociations? Elles se sont arrêtées un temps, notamment parce que au Soudan, les troubles politiques, la destitution d'Omar el-Béchir ont fait que les négociations sur ce barrage ont dû prendre une pause. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça a repris il y a quelques semaines, parce qu'il faut dire que le barrage est quand même très avancé, mais que les négociations ont lieu après que le chantier a commencé, loin après. Donc est-ce que pour l'instant l'Égypte et le Soudan s'y retrouvent?
Après cette phase d'instabilité consécutive au printemps arabe, alors on a eu une très très forte tension sous la présidence de Mohamed Morsi, président issu des frères musulmans. Et moi je me souviens d'un YouTube de 3-4 minutes filmé visiblement à l'insu des protagonistes d'une réunion qui ressemblait plutôt à une réunion du Conseil de sécurité nationale égyptien et qui appelait à des représailles si l'Éthiopie continuait dans sa volonté de faire ce barrage. Alors on parlait de faire donner l'Air Force égyptienne, on parlait d'alimenter des maquis pour pouvoir déstabiliser l'Éthiopie, etc., etc. Et puis arrive destitution du président Morsi, arrive le président Sisi et un accord étonnamment conclu à Khartoum. Accord du 23 mars 2015 où on voit Omar el-Béchir main dans la main avec Sisi et main dans la main avec le Premier ministre éthiopien en disant ce projet, nous avons compris qu'il était stratégique non pas que pour l'Éthiopie mais qu'il était stratégique pour la région et donc nous décidons de coopérer. Et c'est vrai que avec la disparition d'Omar el-Béchir, c'est-à-dire qu'il a quitté ses fonctions et son exil, l'instabilité qu'a connu le Soudan, ces discussions consécutives aux études ont connu une pause. Alors elles reprennent et c'est tant mieux, parce que ce barrage, il est quasiment construit. On va pas tarder à le mettre en eau. Et le problème pour l'Égypte en aval, c'est la mise en eau de ce barrage. Parce que tant que le barrage, dont le génie civil n'est pas terminé, progresse, bon, c'est une source d'inquiétude. Mais la vraie inquiétude, c'est quand on va devoir mettre en eau effectivement la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique.
Donc l'un des enjeux, c'est le temps que va prendre le fait de remplir un réservoir de 79 milliards de mètres cubes.
Alors, le temps que ça va prendre, mais surtout les conséquences sur le débit aval. Parce que comme je vous disais, 98% de la population égyptienne vit sur les rives de ce Nil et 95% de l'eau consommée vient du Nil. Alors, la moindre réduction de débit, l'Égypte ne peut pas se le permettre aujourd'hui. Il faut savoir que son agriculture est excessivement consommatrice d'eau. 90% de l'eau douce que vous avez dans ce pays est consommée par l'agriculture. Et l'agriculture égyptienne, je suis désolé de le dire, depuis 50 ans, ne s'est pas réformée. C'est-à-dire consomme toujours, toujours, toujours plus d'eau pour nourrir 120 millions d'habitants à horizon 2030. Avec une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de la population égyptienne a moins de 25 ans. Qu'on a un taux de fécondité par femme de 3,7. Donc c'est bouché, il va bien falloir les nourrir. Et pour ça, vous avez besoin d'eau.
Et qu'on sait notamment, et un chercheur de l'IRIS était venu nous le dire récemment dans les enjeux internationaux, que les épisodes de sécheresse, les problèmes d'irrigation conduisent...
Les conséquences du changement climatique.
Voilà, conduisent les agriculteurs, les ruraux vers les villes et augmentent les tensions. Donc aujourd'hui, vous êtes de ceux qui, comme l'International Crisis Group, disent que ce barrage de la Renaissance peut encore créer un conflit régional.
C'est un hotspot de la région, à l'évidence. Vous savez que quand Hillary Clinton était encore secrétaire d'État, elle avait commandé un rapport à la communauté nationale du renseignement américaine. Ce rapport, c'est Water Security Report, et il mettait clairement en question les conséquences de ce barrage sur la sécurité régionale. La seule solution aujourd'hui pour le président Sisi, qui vient d'être réélu, c'est d'investir massivement dans les infrastructures en eau pour compenser la baisse du débit du Nil qui va forcément arriver avec la mise en eau de ce barrage. Ça va être compensé par du dessalement. Alors, il a annoncé la plus grande station de dessalement de la région, 160 000 mètres cubes jour, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'il réforme les pratiques de son agriculture, avec de l'irrigation intelligente, avec pourquoi pas de la recharge artificielle des nappes. En tout cas, faire rentrer l'agriculture égyptienne dans la modernité, c'est la seule solution de sortie de crise pour lui. Et il est devant un problème, le général de Gaulle disait, une éventualité qui se presse, et c'est exactement le challenge qui le sien aujourd'hui.
Merci Franck Galland d'avoir été avec nous.
Merci
ce matin. Le titre de votre dernier ouvrage, Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau, est chez CNRS Édition. Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
France Culture présente Cartooning for Peace. 37 des plus grands dessinateurs de presse du monde entier réunis à l'occasion du Forum mondial de la démocratie. Le dessin de presse, l'art du politiquement incorrect par excellence, sera au cœur de la carte blanche offerte à Cartooning for Peace le 7 novembre à 17h. Débats, expositions, performances, ateliers pédagogiques, une riche programmation ouverte à tous. Du 6 au 8 novembre, dessinons la paix et la démocratie avec Cartooning for Peace au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Un partenariat France Culture. Chaque samedi à midi, Politique par Hervé Gardette.
L'environnement serait désormais la première préoccupation des Français. Pourtant, les formations qui militent pour sa protection ont du mal à exercer le pouvoir. La France est loin d'être exemplaire dans le registre des politiques en faveur de la nature. Quelles en sont les raisons? On en parle samedi à midi dans Politique avec l'historienne de l'environnement Valérie Chansigaud.
Politique, ce samedi à midi et sur franceculture.fr.
Et c'est Hervé Gardette que vous retrouvez pour les matins jusqu'à 9h. Bonjour Hervé, et alors quelle est votre humeur du jour?
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous. Eh bien mon humeur me conduit ce matin à évoquer Ken Loach, qui dans son tout dernier long métrage, Sorry We Missed You, fait du Ken Loach. Comme dans tous ses films consacrés au monde du travail, il se place du côté du salarié plutôt que de celui du patron, même si cette fois-ci les rôles sont un peu moins précis puisque l'histoire se déroule dans l'univers de l'auto-entrepreneuriat. De manière générale d'ailleurs, le cinéma prend le parti du dirigé plutôt que celui du dirigeant. Et dans la vraie vie, nous sommes tentés d'en faire autant. Quand un conflit social apparaît, l'empathie va aux ouvriers, aux employés, aux petites mains, pas au PDG. Il est pourtant une entreprise et une corporation qui, par un curieux renversement, provoque la réaction inverse. L'entreprise la SNCF, la corporation, celle des cheminots. Qu'une grève éclate et c'est l'Alali. Le bon peuple des usagers se révolte contre cette caste de privilégiés que sont les contrôleurs, les conducteurs de train, les éditorialistes rendus hargneux perdent tout sens de la mesure dès qu'un train est annulé. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas ennuyeux ni même exaspérant, en particulier pour celles et ceux qu'ils prennent au quotidien. Mais dans des cas comme celui-ci, c'est comme s'il devenait impossible d'examiner avec un minimum de distance critique les raisons profondes qui poussent les cheminots à se mettre en grève. Elles ne sont peut-être pas toujours bonnes, mais elles ne sont peut-être pas toujours mauvaises. En 1995, les désagréments n'étaient pas moindres, mais le mouvement était resté populaire. Alors qu'est-ce qui a changé? Eh bien le fait que les dernières grèves sont catégorielles, le prix des billets qui encourage l'exaspération, mais aussi le discours autour de la SNCF qui nous coûte cher à nous contribuables, c'est devenu le refrain dominant. Du coup, quand les trains sont en grève, celui qui sommeille en nous et qui se réveille, c'est le patron. Il y a une quinzaine d'années, Ken Loach avait réalisé ce qui reste à ce jour un de ses meilleurs films, The Navigators, plongée documentaire dans l'univers du ferroviaire britannique confronté à la privatisation. S'il devait ressortir en salle aujourd'hui, je ne donnerais pas cher de sa peau au box-office. Et au sommaire des matins de France Culture, sans Guillaume Erner, comme vous avez pu le constater, vous le retrouverez lundi. Au sommaire, donc, nous évoquerons l'entrée en vigueur ce vendredi des nouvelles règles de l'assurance chômage. Il va devenir de plus en plus dur de se faire indemniser. La réforme entre en vigueur dans un contexte de reprise de l'emploi. Nous en parlerons à partir de 8h-20 avec l'économiste Éric Heyer. Il sera rejoint à partir de 8h20 par Alain Maistre pour évoquer les mutations à venir dans le monde du travail, notamment du fait de la transition énergétique. Sur France Culture, d'ici une dizaine de secondes, il sera pile 7h, l'heure de retrouver le journal de Margot Delpierre.